Chapitre 9. Une équipe en action. Le 6 juillet dans l'après-midi, encombrés de gros sacs à dos, nous débarquions toutes les trois à la gare de Hyères. Nous avions prévu d'arriver le 5, mais Amélie avait une réunion de famille incontournable qui nous fit repousser notre date de départ. Nous étions très excités, nous nous connaissions depuis des années, mais c'était la première fois que nous partions pour vivre plusieurs jours ensemble. Nous avons tellement bavardé dans le train que le trajet nous parut très court. Sur le quai, il faisait très chaud et malgré nos tenues légères, nous étions toutes transpirantes quand nous sortîmes sur la place de la gare. Stéphane, qui arrivait tout juste avec sa camionnette, me sauta au cou. Je vis qu'il ressentait autant de joie à me retrouver que j'en avais de le revoir. J'arrivais tranquillement, comptant sur un retard SNCF normal. Et voilà que vous êtes déjà là. Stéphane, je te présente Amélie, et voici Ursula. Stéphane leur fit la bise en disant « Emmanuel m'avait dit que vous étiez super canon, je vois qu'elle n'avait pas exagéré. Hey, »« Eh, dis donc, toi, je ne t'ai pas amené mes copines pour que tu les dragues ?» Je leur faisais juste un compliment, un petit mot de bienvenue, uniquement par politesse. « Comment ça, par politesse ?» s'insurgea Ursula avec un sourire malicieux. « Ça veut dire que tu ne penses pas un mot de ce que tu dis ?» « Ouh là là, je vais avoir du mal à tenir le choc, moi, avec trois nénettes à la maison. »« Au contraire, tu vas être chouchoutée, dorlotée, tu n'auras qu'à te laisser vivre, on s'occupera de tout. »« Vous oubliez un truc, les filles, je ne suis pas en vacances, moi. Je travaille 5 jours par semaine et au minimum 8 heures par jour. Vous me verrez un peu le soir et peut-être le matin pour celles qui ne se lèvent pas trop tard. Aujourd'hui, je me suis arrangée pour partir plus tôt. » Mais je ne pourrais pas faire ça tous les jours. Nous nous installâmes dans la petite maison de Stéphane. En bas, il y avait une cuisine et un séjour, avec un WC coincé entre les deux pièces, en haut deux chambres séparées par un mini cabinet de toilette comportant un lavabo et une douche. Stéphane nous abandonna tout l'étage, sauf la salle d'eau dont il tenait à garder l'usage, 1 quart d'heure par jour, pour prendre sa douche en rentrant du chantier. Il avait décidé de dormir en bas sur le canapé. Comme cela, il ne dérangerait personne le matin en partant. Sitôt installés, nous prîmes le temps d'un premier bain dans la mer qui n'était pas loin et nous rentrâmes pour préparer le dîner. « Au fait, demandai-je à Stéphane, quand nous présentes-tu ta nouvelle conquête, une jolie blondinette à ce qu'il paraît ?»« Je n'ai jamais dit jolie blondinette, mais vous verrez bien, elle s'appelle Henriette. Je l'ai invitée pour que vous fassiez connaissance. Elle vient ce soir pour dîner et parler avec nous. » J'avais bien compris que Stéphane cherchait à titiller ma jalousie et j'étais bien décidée de ne pas me laisser prendre à ce jeu. Pourtant, inconsciemment, cela m'agaçait prodigieusement. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer cette Henriette en rivale. J'étais impatiente de la voir et surtout de voir le comportement de Stéphane en sa présence. Quand elle arriva, une bouteille de rosée à la main, je compris tout de suite que Stéphane m'avait fait marcher. Je me tournai vers lui et vis qu'il me regardait, guettant ma réaction. D'un geste, je lui fis signe qu'il ne perdait rien pour attendre et que nous réglerions ça plus tard. Henriette était bien une petite blondinette, mais sûrement pas une jolie blondinette comme je l'avais imaginée. Elle n'était pas loin de la 50aine et avait les cheveux bouclés et décolorés. Elle avait un sourire sympathique, mais le visage marqué d'une personne que la vie n'a pas épargnée. Stéphane lui présenta Amélie et Ursula, qui mettaient le couvert en surveillant une appétissante paella qui embaumait toute la maison. Il termina par moi en me désignant comme la grande chef des opérations. Rapidement, nous nous installâmes autour de la table. Nous aurions pu manger dehors, sur la petite terrasse, pour profiter de la douceur du soir, mais il m'avait semblé que nous serions plus à l'aise pour parler à l'intérieur, sans nous inquiéter d'être entendus par quelques voisins ou promeneurs. L'ambiance était détendue et chaleureuse. Nous rions de tout et de rien, heureux d'être là tous ensemble. Henriette se sentit vite à l'aise au milieu de la jeunesse et semblant apprécier l'humour, elle rit de bon cœur, même quand on chercha à la mettre en boîte. Quand tout le monde se fut resservi 3 fois de paella et plus encore de vin rosé dont Stéphane avait des réserves, je pris la parole et tâchai de transformer cette joyeuse cacophonie en réunion de travail pour préparer l'offensive du lendemain. D'abord, je fis un résumé succinct de la situation, puis j'annonçai les objectifs. Juste avant de partir, j'ai reçu un coup de fil d'Yvette Monnier. Elle vient nous rejoindre demain après-midi. Elle revient de Grèce, où elle a été passée quelques jours, parce qu'elle déprimait chez sa sœur en Auvergne. Elle voudrait bien rentrer chez elle, mais d'après ses enfants qui habitent toujours le quartier, Alex, son ancien compagnon qui ne manque pas de culot, squatterait toujours la maison en compagnie de sa nouvelle petite amie. La première chose à faire est d'y aller demain de bonne heure, avant qu'ils ne partent au travail. On vérifie d'abord qu'ils sont bien là, installés chez Yvette. Dès qu'ils ont quitté la place pour aller au travail, on entre avec la clé d'Antoine que j'ai toujours sur moi et on se débrouille pour changer la serrure et bloquer la télécommande de façon à ce qu'ils ne puissent plus entrer. On fait le tri de leurs affaires et on dépose le tout sur le trottoir. Ils n'auront plus qu'à les récupérer le soir en rentrant et à aller squatter ailleurs. Sans doute un petit coup de ménage sera utile pour qu'Yvette retrouve sa maison comme elle l'a laissée. Il faudrait aussi aller rôder autour de la maison de Jean-Claude Martin pour repérer les lieux et voir ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Ce serait bien qu'on sache aussi où est amarré son bateau pour qu'on puisse surveiller ses allées et venues. Voilà, maintenant je voulais vous dire que je ne suis pas totalement sûre de moi, je vous entraîne peut-être sur une fausse piste. Je suis mon intuition, mais je n'ai aucune preuve contre ce monsieur. Si nous ne trouvons rien, il faudra laisser tomber et partir sur autre chose. Mais sur quoi ? Je vous garantis que Jean-Claude Martin est une bonne piste et qu'il y aura quelque chose au bout, mais je ne sais pas si ce sera Antoine Monnier, dit Henriette. Je voudrais tout de même vous prévenir que d'aller fouiner dans les affaires louches de ces gens peut être dangereux. S'ils se sentent suivis, observés ou pire, découverts, ils peuvent avoir des réactions très violentes. Faites bien attention à vous, n'attendez pas le dernier moment pour prévenir la police. Merci de tes conseils, mais nous n'avons pas l'intention de prendre des risques inutiles. Dès que nous aurons un indice suffisamment convaincant, nous préviendrons la police et nous la laisserons poursuivre le travail. Ça ne me déplairait pas de prendre un peu de bon temps sur la plage. Mais pour le moment, la police a déclaré forfait. Si nous ne faisons rien, Antoine Monnier devra se débrouiller tout seul. Après le chahut du début du repas, cela me faisait tout drôle de parler dans un silence quasi religieux. Personne n'émit d'objection. Après quelques secondes de réflexion, j'ajoutai « Stéphane !»« Oui ? » ?»« Peux-tu te charger du transport demain matin ? Nous déposer pas loin de chez Yvette ?»« Oui, bien sûr, mais à 8 heures, je dois être au chantier. » »« Aucun problème. » Si on veut être sûr de ne pas rater le départ d'Alex et de sa tourterelle, il faut qu'on y soit vers 7h, 7h15, dernier délai. « Tu vas nous faire lever à quelle heure ?» s'écria Ursula. « 6h, ça devrait aller. »« Mais c'est affreux !» ajouta Amélie. « Tu vas nous faire rater notre première grasse matinée. »« Si vous ne pouvez vraiment pas vous lever, j'irai seule. » »« Si, si, bien sûr, on vient avec toi !» Mais j'espère seulement que ce ne sera pas tous les jours comme ça. Ce ne serait plus des vacances. L'ambiance revint pendant qu'on faisait la vaisselle tous ensemble. Henriette vint à moi, s'arrangea pour me prendre à part et me déclara. « Si tu savais comme je suis heureuse de ne plus me sentir seule face à mes doutes, à mes peurs, c'est bon de se sentir épaulée, de savoir que nous sommes une équipe et que nous cherchons ensemble des solutions. Merci de tout ce que tu fais. » Les compliments, c'est toujours agréable à recevoir, mais je n'étais pas du tout sûre de les mériter. J'avais, moi aussi, beaucoup de doutes sur ce que nous allions entreprendre. Heureusement que la présence de Stéphane m'aidait beaucoup dans cette affaire. Je crois que sans lui, sans sa confiance en moi, sans sa présence rassurante et son aide matérielle, je n'aurais pas eu le courage d'aller au bout de ces recherches. Car je le sentais, et on me le disait bien, je prenais de plus en plus de risques. Le lendemain, le lever imposé de bonne heure fut un peu délicat, surtout que nous nous étions finalement couchés assez tard. J'avais mis mon réveil et je me chargeais d'aller sortir mes amis du lit. Amélie se leva en grognant un peu et fila sous la douche, me brûlant la priorité que je croyais avoir acquise en me levant la première. Ursula fut plus difficile à convaincre. Je descendis préparer le déjeuner avec Stéphane qui avait dormi en bas. Je remontai quand j'entendis que l'eau de la douche avait cessé de couler. J'allais prendre la place d'Amélie, qui sortait encore à moitié mouillée, quand nous aperçûmes Ursula, qui s'était retournée sur son lit et tranquillement rendormie. Je lui secouai l'épaule, mais sans grand résultat. Alors Amélie arracha les couvertures et, avisant une plume d'autruche qui traînait dans un vase, elle s'occupa de lui chatouiller les pieds. L'effet fut radical, celle-ci se tordit dans tous les sens, Puis, abandonnant la partie, elle se décida à se lever. Je courus à la salle de bain pour ne pas me faire avoir une deuxième fois. Après un bon petit déjeuner bien copieux, Stéphane nous déposa donc vers 7 heures à quelques centaines de mètres de chez Yvette. Il nous souhaita bonne chance et partit travailler. En nous cachant derrière des voitures en stationnement, nous entreprîmes de surveiller ce qui se passait dans la maison des Mauniers. La grosse BMW noire d'Alex était garée devant les garages, ce qui tendait à prouver sa présence. Mais vu la position de la maison en hauteur, nous ne pûmes rien voir d'autre depuis la rue. Il ne nous restait plus qu'à attendre, en espérant qu'Alex allait bien partir travailler ce matin et qu'il emmènerait sa concubine, si concubine il y avait. Effectivement, vers 7h30, il y eut un peu d'agitation. On vit le fameux Alex monter dans sa voiture et une petite jeune fille, qui ne devait pas avoir beaucoup plus de 18 ans, se précipiter à son tour pour prendre place à sa droite. Le portail s'ouvrit, obéissant à la télécommande. La grosse voiture noire le franchit, enfila la rue et disparut. « À notre tour, » dis-je en me relevant. Nous nous approchâmes du portail, je mis la clé d'Antoine dans la serrure et, comme lors de mon premier essai, le portail s'ouvrit. Je repérai le boîtier électrique et pensai qu'il faudrait l'ouvrir pour désactiver le système de télécommande et bloquer Alex à l'extérieur de la propriété. Le portail se referma automatiquement derrière nous et nous grimpâmes l'allée jusqu'à la maison. La porte d'entrée était fermée à clé, mais ma clé l'ouvrit sans problème. À l'intérieur, un spectacle consternant nous attendait. Je n'avais jamais vu une maison dans un tel état de désolation. Alex avait vécu là plusieurs mois avec sa petite amie, en parfait sagouin qu'il était. Un couple de sangliers n'aurait pas fait pire. Dans la grande salle de séjour, la table et les moindres meubles étaient envahis d'assiettes sales et de restants de nourriture plus ou moins avariés. Le sol était couvert de miettes et de papier gras. Dans le couloir, les chambres et la salle de bain, le linge sale et les mouchoirs en papier usagés étaient répandus partout. La cuisine était un véritable champ de bataille. La poubelle débordante n'avait jamais été vidée, les ordures s'amoncelaient tout autour. L'évier et les plans de travail étaient envahis par des montagnes de vaisselle sale, le sol était plein de miettes et par endroits collant à souhait. « Eh bien, on a de quoi s'occuper. Ce sont des animaux qui ont habité ici ?»« Oui, un couple de cochons. »« Par où on attaque ?»« Par la cuisine, » répondis-je. « Il faut à la fois tout ranger, nettoyer. Après, il faudra trier les affaires des deux porcs pour les mettre sur le trottoir. » « Si on ne met pas un peu d'ordre, Yvette va prendre une attaque en arrivant. Attention, avant de toucher à quoi que ce soit, pensez à prendre des photos sous tous les angles. » Laissant mes deux amis faire des photos, puis s'attaquer à la monstrueuse vaisselle, je redescendis vers la grille pour voir comment condamner son ouverture automatique. En effet, il était important qu'Alex ne puisse plus pénétrer dans la propriété. J'observai le système et repérai le boîtier électrique. Après avoir récupéré un tournevis au garage, je l'ouvris assez facilement, mais je ne vis qu'un fouillis de fils branchés sur des cartes électroniques. Que faire ? Je remontai à la maison, m'emparai du téléphone sans fil et redescendis au portail en appelant Thibault. C'est maman qui me répondit en me félicitant de donner si vite des nouvelles. Je dus lui raconter ce qui s'était passé depuis notre arrivée. Elle me posa quelques questions sur Stéphane et je demandai à parler à Thibault. « Je vais voir, mais je crois qu'il dort encore. » J'avais oublié qu'il n'était pas encore 8 heures, et Thibault, qui faisait 1000 choses la nuit, avait toujours du mal à se lever le matin. Après avoir grogné que j'étais folle de le réveiller comme ça, il daigna écouter mes questions techniques. Dans le boîtier électrique du portail, il me fit repérer, puis enlever le fusible. Ensuite, je m'approchai du bloc moteur, je lui décrivis ce que je voyais, et il me fit manœuvrer un levier pour débrayer le système. Le portail redevint un simple portail non motorisé qui s'ouvrait manuellement. Il suffisait maintenant de remplacer le barillet de la serrure pour que seuls ceux qui possédaient la nouvelle clé puissent ouvrir. Il m'expliqua comment démonter ce barillet, ce qui me parut finalement assez simple. Il me restait maintenant à aller en acheter un autre et à le remonter, ce qui ne devait pas présenter de difficultés majeures. Je rejoignis mes pauvres amis qui étaient en pleine vaisselle. « Emmanuel, c'est l'horreur. Regarde, on a dû remplir cette grande bassine d'eau chaude pour faire tremper les plats et les casseroles, tellement c'était attaché. Et regarde là, c'est tout moisi, c'est à gerber. Et il y a encore tout ce tas, là par terre, et toute la montagne que nous avons rassemblée sur la grande table du séjour. Je m'en souviendrai de cette vaisselle. C'est vraiment génial les vacances avec toi. On se lève à point d'heure pour aller récurer la crasse des autres. Le rêve. Je compris que mes deux amies avaient le moral en chute libre. Il fallait que je reste près d'elles. Avant de démarrer l'aspirateur pour un premier dégrossissage, je pensais qu'une musique entraînante nous donnerait du courage. Amélie et Ursula trouvèrent l'idée excellente et se précipitèrent sur la chaîne pour choisir un CD de tube récent et le mettre bien fort pour s'en remplir les oreilles. Dans la matinée, je m'éclipsai une demi-heure pour acheter le nouveau barillet du portail et quelques produits d'entretien, dont plusieurs berlingots de Javel. À midi, nous déjeunâmes de sandwichs achetés à la boulangerie du quartier. Nous n'osâmes pas toucher à ce qui traînait dans le frigo et nous préférâmes tout jeter avant d'entamer le grand décapage de la cuisine. En début d'après-midi, nous étions enfin au bout de nos peines. Nous avions de quoi être fiers de nous. Nous avions abattu un énorme travail. La couche de crasse et de poussière avait disparu et les rayons de soleil qui traversaient la maison faisaient tout briller. L'odeur de renfermé et de transpiration avait été chassée par celle de la Javel et par le courant d'air général que nous avions établi en ouvrant toutes les portes et fenêtres. Comme récompense de nos efforts, nous nous offrîmes une bonne douche dans la superbe salle de bain de la maison. C'était une grande douche à l'italienne, avec des jets tout autour, et nous en profitâmes largement. Vers 15 heures, alors que nous mettions un peu d'ordre dans le jardin, Yvette arriva au volant de sa voiture verte. Bien sûr, elle ne put ouvrir le portail avec sa télécommande, et nous dûmes descendre pour lui ouvrir et lui expliquer la situation. Après avoir fait le tour de la maison et avoir regardé les photos prises le matin même par les filles, elle nous félicita chaleureusement pour le travail effectué. Avec son aide, nous nous occupâmes de trier les affaires d'Alex et de sa compagne. Tout ce que nous avions trouvé comme vêtements et affaires personnelles dans tous les coins de la maison avait été rassemblé sur la table de la terrasse. Yvette présida au tri de ses propres vêtements et de ceux d'Antoine qu'elle reconnut. Car les squatteurs ne s'étaient pas gênés pour utiliser le linge trouvé dans les armoires, puis pour l'abandonner n'importe où quand il était sale. Les vêtements de la famille furent regroupés à la buanderie pour passer en machine. Ce qui restait devait appartenir à Alex et à sa donzelle et fut enfermé dans des sacs poubelles et déposé sur le trottoir. Comme ça, s'ils ne les récupèrent pas, tout partira demain avec des ordures, conclut Yvette. Nous prîmes un temps de repos en attendant le retour d'Alex, qu'Yvette nous annonça pour 17 heures, car étant fonctionnaire, il rentrait à heure fixe. Elle rangea sa propre voiture au garage pour qu'on ne puisse repérer sa présence. À l'heure dite, la grosse voiture noire vint s'arrêter, le nez contre le portail. Alex en sortit furieux de voir que la grille n'avait pas obéi à son ordre, transmis par la télécommande. Il essaya d'ouvrir avec sa clé, mais sans plus de succès. Sa jeune compagne sortit à son tour pour voir ce qui se passait. Il la fit prestement rentrer dans la voiture par quelques insultes bien choisies. Puis il escalada le portail et sauta par-dessus. Alors je sortis de derrière le buisson où je me cachais et d'où j'observais la scène et j'apparus dans l'allée à 10 mètres devant lui. « Qu'est-ce que vous foutez là ?» me dit-il. Amélie vint me rejoindre. « Ce serait plutôt à moi de poser la question, » répondis-je. « Vous venez de pénétrer par effraction dans une propriété privée. » « Dites donc, mes petites demoiselles, si vous croyez que vous me faites peur !»« Mais vous ne nous faites pas peur non plus, monsieur qui se croit tout permis !»« C'est bien, si c'est comme ça que vous le prenez, j'appelle les flics, vous vous expliquerez directement avec eux !» Je ne répondis rien, ne bougeai pas. Il sortit son téléphone portable de sa poche, mais ne composa aucun numéro. Il reprit. « Vous feriez mieux de débloquer au plus vite le portail et de disparaître, ou j'appelle les flics, et dans un quart d'heure, vous serez au poste en garde à vue. »« Pas chiche !» cria Ursula, qui sortit à son tour de derrière un buisson. « Monsieur, dis-je à mon tour, nous venons de vous prendre en photo, en train d'escalader notre portail. Nous avons aussi un album complet de photos, montrant dans quel état vous avez mis cette maison. Enfin, je vous mets au défi de nous dire à quel titre vous l'occupez. Vous m'accusez ? D'accord, je vais directement chez mon avocat. Je vous préviens, vous allez avoir de mes nouvelles. Très bien, monsieur, nous attendons votre avocat. Il peut venir ce soir même, le plus vite sera le mieux. En attendant, récupérez donc vos affaires. Elles sont dans les sacs poubelles, là, dehors. L'homme escalada de nouveau le portail, dans le sens de la fuite cette fois. Il chargea les sacs dans le coffre. La BMW noire démarra rageusement, s'éloigna, et l'on n'entendit plus parler d'Alex. Yvette était aux anges. Elle nous embrassa toutes les trois plusieurs fois, en n'arrêtant pas de nous dire « Merci, merci !» Ce sale type avait tellement d'influence sur moi que jamais je n'aurais été capable de le mettre dehors comme vous l'avez fait, les filles. « Disons que voilà une bonne chose de faite, alors n'en parlons plus, » répondis-je. « Parlons-en, au contraire. Je vous propose de nous organiser un super repas ce soir pour fêter ça. » Avec tout ce que nous avions fait depuis le matin de bonne heure, je n'avais plus le courage de me mettre à cuisiner. Une petite salade et au lit, voilà mon rêve. Mais Yvette Monnier avait d'autres façons de voir. Elle passa un coup de fil à un traiteur, me demanda d'inviter Stéphane et pourquoi pas Henriette, qu'elle ne connaissait que de vue, puis, enfilant un maillot de bain, elle alla se plonger dans la piscine en attendant l'heure du dîner. « Je suis vraiment désolée, » nous dit-elle. « Je voulais vous offrir l'apéro, mais il ne reste plus une goutte d'alcool dans toute la maison. » Ce soir-là, je compris l'avantage d'être riche. Avec de l'argent, il suffit de vouloir quelque chose pour qu'elle arrive sans qu'il soit besoin de fatigue ou même d'effort. Tandis que nous barbotions dans la piscine, qui heureusement n'avait pas servi de poubelle et avait même été à peu près entretenue, Stéphane, Henriette et le dîner arrivèrent. Mon seul effort fut d'aller ouvrir la grille avec la nouvelle clé. Stéphane et Henriette nous rejoignirent dans l'eau, le traiteur se débrouilla tout seul. Il dressa la table sur la terrasse, mit le vin au frais et les plats au chaud dans le four de la cuisine et vint nous servir un excellent kir à la pêche pour l'apéritif. Il se retira discrètement, nous n'avions plus qu'à passer à table. « Comme c'est confortable d'être riche, » pensais-je, et je me demandais si je n'avais pas vocation à le devenir. Pourtant, il était évident que j'avais mieux à faire pour le moment. Le repas fut très gai et animé. Il nous fallut mimer plusieurs fois la visite d'Alex et sa fuite en ramassant les sacs poubelles contenant ses affaires sales. Après le dessert, une tarte au citron meringuée, je jugeai qu'il nous fallait aborder un sujet plus sérieux. Comment allions-nous nous y prendre pour poursuivre notre enquête, découvrir les manigances de Jean-Claude Martin et savoir s'il était lié à la disparition d'Antoine Monnier ? La question posée, chacun y alla de son idée. Il en découla trois pistes intéressantes. La première était de filer Jean-Claude Martin lors de tous ses déplacements pour connaître ses habitudes, ses relations. La deuxième était de visiter sa maison avec l'idée qu'on y découvrirait peut-être quelques indications sur Antoine. La troisième était de surveiller son bateau et éventuellement de le suivre lors de ses navigations pour découvrir le but de ses nombreuses sorties en mer, seul à bord. La première idée fut vite reconnue comme irréalisable. Il aurait fallu disposer d'un personnel beaucoup plus nombreux et surtout de plusieurs véhicules discrets. Or, la camionnette de Stéphane stationnait souvent sur le parking de Martin et Monnier, la voiture d'Henriette évidemment aussi. Et la petite voiture verte d'Yvette était tellement repérable que tout le quartier la connaissait. La deuxième proposition présentait quelques risques. Il ne faudrait pas se faire prendre en pleine visite clandestine. Cela pourrait nous valoir des ennuis avec la police, que mon père pourrait sûrement arranger, mais qui pourrait rendre Jean-Claude Martin extrêmement méfiant et, de ce fait, paralyser notre enquête. Enfin, pour la troisième piste, il nous parut assez facile de surveiller le yacht. Il y a toujours du monde qui traîne sur les pontons, dans les ports. Mais quant à savoir où il se rendait et ce qu'il allait faire en mer, nous n'avions pas beaucoup de moyens pour le savoir. Stéphane avait bien un canot à moteur. C'était une sorte de pointu, c'est-à-dire une grosse barque de pêche en bois équipée d'un moteur diesel caché dans un coffre de bois. C'était un bateau rustique, solide et fiable, mais qui ne pouvait rivaliser de vitesse avec le moindre yacht. Pourtant, Stéphane proposa d'essayer de suivre Jean-Claude Martin à la première occasion. Voici ce qui fut décidé. Comme nous disposions de deux téléphones portables, celui d'Amélie et celui d'Yvette, cela faciliterait le guet. Dès le lendemain matin, j'irai avec Ursula tenter de visiter la maison de Jean-Claude Martin. Comme il serait à son bureau, le guet serait fait par Henriette qui travaillait à côté de lui et qui ne quittait pratiquement pas son patron des yeux. S'il s'absentait, elle nous préviendrait immédiatement et nous aurions au moins 20 minutes pour quitter les lieux. Amélie et Yvette iraient se promener sur le port, repéreraient le yacht d'après les indications de Stéphane et réfléchiraient à des solutions pour suivre ses déplacements. Yvette voulait nous retenir tous pour dormir, mais la maison de Stéphane nous parut plus discrète. Henriette, particulièrement, ne tenait pas à ce que son patron découvre qu'elle gardait des relations avec la femme de son associé disparu. Seule Amélie resta pour la nuit avec Yvette, qui n'était pas trop rassurée à l'idée de dormir seule. Elle avait peur d'une réaction tardive d'Alex. Le lendemain, le réveil sonna encore de bonne heure. Avec Ursula, nous nous préparâmes rapidement, et tandis que Stéphane partait travailler, nous enfourchâmes deux vélos prêtés par Yvette et nous filâmes vers la presqu'île de Gien, avec l'idée de pénétrer dans la maison de Jean-Claude Martin dès qu'il serait arrivé à son bureau. En effet, quelques minutes avant 8 heures, Henriette appela sur le portable. « L'oiseau est là, je l'ai à l'œil, allez-y, bon courage !» Nous arrivâmes jusque devant la maison que nous avait indiquée Stéphane. C'était une grosse maison en pierre, une maison de village, qui faisait l'angle de deux petites rues, mais dont l'accès se faisait par derrière, dans une petite cour. Côté rue, il n'y avait que des fenêtres, trop hautes pour être atteintes sans escalade, et de plus défendues par des barreaux. Depuis la cour en cul-de-sac, le petit jardin donnant accès à l'entrée était défendu par un haut portail de bois plein. Une boîte aux lettres indiquait bien le nom de Jean-Claude Martin. D'après ce que nous pûmes apercevoir entre les rares interstices des planches, le jardin en herbe était clos de murs. Nous vérifiâmes que le portail était bien verrouillé, puis nous allâmes un peu plus loin attacher nos vélos contre un poteau indicateur. « Je crois, dis-je à Ursula, que nous allons devoir commencer par escalader le portail. »« Oui, si tu n'as pas la clé, c'est la seule solution. »« Il faudra faire vite. Si on se fait repérer, ce sera difficile de se justifier. » »« On y va ?» Nous nous approchâmes à nouveau du portail. La cour était déserte et la rue le paraissait aussi. La poignée qui dépassait pouvait faire un bon appui. Levant haut la jambe, je mis un pied dessus, puis, debout sur cette poignée, je me hissai et me couchai sur la grosse barre de bois tout en haut. Je laissai pendre mes jambes de l'autre côté, puis, me retenant avec les mains, je me laissai tomber à l'intérieur et je sautai dans l'herbe. Ursula, au moins aussi agile que moi, me rejoignit immédiatement. Si le jardin ne paraissait pas vraiment abandonné, il était clair que personne ne songeait à l'entretenir. Toutes sortes de plantes poussaient le long des murs. L'herbe folle qui garnissait la plus grande partie de l'espace laissait seulement dégager les 10 mètres de chemin régulièrement utilisés pour stationner la voiture et les 2 mètres de passage piéton pour aller de la voiture à la porte de la maison. Celle-ci était bien sûr fermée à clé. Rapidement, nous visitâmes tous les recoins qui pouvaient servir de cachette à la clé, comme c'est la coutume à la campagne. Mais nous ne trouvâmes rien. La clé, il la conservait sans doute sur lui. Cette porte était faite d'épaisses planches de chêne, il n'était pas question de la forcer. Il nous fallait trouver un autre passage pour pénétrer dans la maison, si possible sans laisser de traces. Les fenêtres du rez-de-chaussée étaient barreaudées comme celles du côté de la rue. Se reculant un peu, Ursula repéra au premier étage une fenêtre entrebâillée. C'était une possibilité intéressante, mais cette fenêtre était à 4 ou 5 mètres du sol, et seul un alpiniste confirmé aurait pu escalader le mur de pierre qui n'offrait que très peu de prise. Il aurait pu y avoir une possibilité par les soupiraux du sous-sol, mais l'un était muni d'un gros barreau de fer et l'autre avait été muré avec du ciment qui semblait récent. Nous fîmes le tour du jardin pour chercher une échelle ou quelque chose qui pourrait en faire office, mais nous ne trouvâmes rien d'intéressant. C'était tout de même rageant de devoir renoncer si près du but. Bien sûr, nous pouvions revenir avec une échelle, mais deux filles inconnues arrivant avec une échelle et escaladant un portail, ce n'était pas très discret, et il y avait de quoi intriguer le premier voisin qui mettrait le nez dehors. Mais Ursula était une petite futée et je ne regrettais pas de l'avoir prise comme adjointe dans cette opération. « Regarde, me dit-elle, il y a plusieurs poutres qui dépassent du mur au-dessus des fenêtres du premier. Il y en a une presque au-dessus de la fenêtre entrebâillée. Si nous arrivions à jeter une corde sur cette poutre, nous pourrons nous hisser jusqu'à la fenêtre et entrer par là. » C'est une super idée, mais nous n'avons pas de corde. Il faudra qu'on en trouve une, ce sera plus discret à porter qu'une échelle. Et on revienne dès que possible. Nous repassâmes par-dessus le portail, reprîmes nos vélos et nous fonçâmes jusqu'au chantier, demander à Stéphane s'il avait une corde à nous prêter. Il réfléchit quelques instants, puis déclara « Si je vous donne une simple corde, un peu solide, vous aurez du mal à la lancer avec précision à 6 mètres de haut. » Et ensuite, j'ai beau vous regarder attentivement, je ne suis pas sûr que vous ayez la musculature et l'entraînement pour monter 5 ou 6 mètres à la force des bras. » Son raisonnement était juste, mais un peu décevant. Voilà ce qu'on va faire. Je vais attacher un barreau de chêne à une cordelette pour que ce soit plus facile à lancer. À l'autre bout de la cordelette, on attachera une échelle de corde que vous allez fabriquer. Je vais vous donner ce qu'il faut et vous montrer les nœuds à faire. Vous verrez, c'est assez simple. C'est ainsi qu'en début d'après-midi, après avoir reçu un nouveau feu vert d'Henriette, nous nous présentâmes de nouveau devant le portail de Jean-Claude Martin, munis du matériel d'escalade adéquat. Le lancer de la cordelette avec le barreau de chêne ne fut pas des plus faciles. Il fallait le lancer assez haut et au ras de la façade, ce qui était assez délicat. Nous essayâmes de nombreuses fois à tour de rôle. Souvent, nous y étions presque. Une fois, la barre de bois atterrit sur la poutre et y resta. En secouant la cordelette, nous réussîmes à la faire tomber, mais du mauvais côté. Nous étions inquiètes d'être remarquées par des voisins, car nous faisions un peu de bruit, et plusieurs fenêtres aux alentours avaient vu sur cette façade de la maison. Enfin, au 99e essai, la barre de bois passa avec précision par-dessus la poutre et la cordelette se plaça dans la bonne position. Nous hissâmes l'échelle de corde et l'amarrâmes au barreau d'une fenêtre du rez-de-chaussée. Il n'y avait plus qu'à grimper. Je m'élançai la première. Stéphane nous avait indiqué comment nous tenir sur l'échelle de corde, aussi la montée se fit facilement. En montant, je n'étais plus caché par le portail et le mur de clôture. Je pensais que plusieurs voisins pouvaient me voir depuis leur fenêtre. C'était un risque à courir, je continuais ma progression. Je poussai la fenêtre entrebâillée, elle s'ouvrit. Elle donnait dans la salle de bain, juste au-dessus de la baignoire. Pas très rassuré à cause de la hauteur, m'agrippant comme je le pouvais, je passai de l'échelle à l'appui de la fenêtre. Je fis signe à Ursula que tout allait bien. J'enlevai mes chaussures pour ne pas laisser de traces et je me réceptionnai sur le rebord de la baignoire. La salle de bain donnait sur un couloir. Je regardais un peu partout car j'avais peur que la maison ne soit équipée d'un système d'alarme, mais je ne vis rien qui pût y ressembler. Je retournai dans la salle de bain et, me penchant par la fenêtre, je fis signe à Ursula de venir me rejoindre. Rapidement, elle fut auprès de moi et se déchaussa aussi. Après avoir vérifié que le téléphone portable n'avait pas enregistré d'appel venant d'Henriette, nous commençâmes la visite. En face de la salle de bain se trouvait la chambre du propriétaire des lieux. Il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Un lit, un fauteuil, une armoire, et traînant un peu partout, quelques vêtements, divers objets personnels et des livres avec pour thème général la mer et les bateaux. Nous ne nous attardâmes pas, mais je fis des photos, beaucoup de photos. Je mitraillai tous les recoins de façon à pouvoir revisiter la maison, rechercher un détail sans avoir à revenir. La maison était grande et, à cet étage, beaucoup de chambres étaient inoccupées, visiblement depuis longtemps. Quand nous eûmes terminé le tour du premier étage, nous grimpâmes l'escalier de bois qui conduisait au grenier. Mais ce grand grenier, surmonté d'une magnifique charpente, ne recélait que des vieilleries couvertes de poussière. Nous renonçâmes assez vite à tout voir et nous redescendîmes nous occuper du rez-de-chaussée. Là, nous trouvâmes une grande cuisine très bien équipée, une salle de séjour et un bureau avec des classeurs bourrés de papier. Ce devaient être les pièces de vie de Jean-Claude Martin. D'autres pièces, dont un grand salon, n'étaient visiblement plus en service. Nous trouvâmes aussi la fameuse pièce d'entrée, seule pièce autorisée aux visiteurs. Mais tout nous parut normal, tout correspondait bien au logement d'un célibataire aisé. Pour terminer, nous descendîmes à la cave. Dans la partie gauche étaient stockées des centaines, voire des milliers de bouteilles de vin. Nous étions dans la cave d'un connaisseur. La partie droite servait plutôt de débarras et d'atelier, avec un établi et quelques outils. Dans un angle, une petite pièce avait été créée par la construction de deux cloisons percées d'une porte. Et cet aménagement était visiblement récent. Il restait même dans un coin une pile de moellons ayant servi aux travaux. Cette petite pièce devait avoir été conçue pour un usage spécial, car la porte métallique était curieusement percée d'une trappe et ressemblait à une porte blindée. Elle était équipée d'une serrure de sûreté que nous n'avions aucune chance de pouvoir forcer si elle avait été fermée à clé. S'il y avait un secret dans cette maison, il me sembla que ce devait être là.